Eh ben, on s'enchaîne une petite chronique uruguayenne.
Ah, mais oui, c'est lundi. On retrouve lundi. Adrien qui est sur la route de l'Uruguay, qui nous fait découvrir ce petit pays. Il nous livrera une chronique tous les lundis pendant quelques semaines, là jusqu'à fin février. La semaine dernière, c'était une présentation un peu générale. Et là, je crois qu'on va parler maté.
Señoras, señores.
Hola a todas y todos.
Hay que ver que es un país que tiene 3 millones de habitantes. Es un barrio de San Pablo. Un barrio.
Bienvenidos a Uruguay.
Les chroniques uruguayennes d'Adrien.
Le lundi, le Mac de Canal Sud se met à l'heure uruguayenne.
República Oriental del Uruguay.
Hola a todos, ¿todo bien? Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle chronique, on va pénétrer un petit peu plus profondément dans la culture uruguayenne pour parler d'une pratique vraiment emblématique du pays. C'est le premier truc qu'on remarque quand on arrive ici, quasiment dès la descente de l'avion, on voit tout le monde se trimballer avec un thermos sous le bras, un peu comme les rugbymen portent le ballon, et à la main, ils ont tous un petit récipient sphérique d'où on voit apparaître, d'où on voit émerger une petite paille argentée. Alors si on se rapproche pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce récipient, on voit une poudre verdâtre. Au début, ça donne pas tellement envie. Alors bien sûr, tous ceux qui connaissent un peu la région ont déjà compris de quoi je vais parler. Cette chronique sera donc consacrée au cultissime maté, la boisson incontournable de toute cette zone. Alors pour ceux qui connaissent pas, le maté ou yerba maté, c'est d'abord une plante, hein, c'est un arbre, dont on cueille les feuilles, pour les torréfier, pour les pulvériser, pour la transformer en poudre, et on va boire cette poudre en infusion. C'est une boisson caféinée, plus riche en caféine que le thé, mais moins que le café. Il a donc un effet sur la fatigue et sur la tonicité musculaire. En plus de ça, ici, on lui prête beaucoup de propriétés. On dit notamment que c'est grâce à lui que les gauchos ont pu survivre à un régime purement carnivore. On le dit diurétique, alors ça c'est sûr, antioxydants, favorisant la digestion, riche en vitamines et minéraux, médicaments pas avant 15 ans, demandez conseil à votre pharmacien. Non, j'arrête là le panégyrique, car sachez-le, cher auditeur, je ne suis l'agent d'aucun lobby agroalimentaire, à part peut-être celui de la filière Cantal, du Nord Carladès, mais non, c'est un autre sujet. Non, pour en revenir à la consommation de maté, tout d'abord, pour boire un maté, il vous faut 3 accessoires. Le récipient, déjà. Le récipient qu'on appelle aussi maté. Alors oui, je sais, c'est un petit peu confus. À la base, ce récipient, il était fait en calebasse, mais aujourd'hui, on en rencontre aussi en bois, en céramique, en verre, même des fois dans des matières un petit peu plus incongrues, comme le sabot ou la corne de vache, et même, aussi incroyable que ça paraisse, en plastique, comme celui dans lequel je bois en écrivant ces lignes. Ensuite, il vous faut une paille. Cette paille, on l'appelle la bombicha. En général, elle est métallique. Elle peut être aussi argentée, hein, pour les puristes, un peu pour les snobs. Elle est équipée à sa base d'un filtre qui vous permet d'aspirer seulement le liquide et de ne pas prendre les petits morceaux avec. Alors, pour boire un maté, vous allez donc remplir votre récipient de yerba maté jusqu'à peu près aux 3/4 et ajouter de l'eau chaude. Vous allez ensuite aspirer l'infusion très simplement par la bombicha, donc la paille. Et cette opération d'ajouter de l'eau chaude sur la yerba, vous pouvez la renouveler une 50aine de fois avec la même herbe. À chaque fois, vous rajoutez de l'eau chaude sur l'herbe. La boisson maté est particulièrement, mais alors particulièrement amère, surtout au début. Ça s'adoucit un petit peu à mesure qu'on la dilue. Assez drôle, allez faire un tour sur YouTube et vous allez voir, il y a plein de vidéos sur les grimaces des étrangers qui essayent pour la première fois le maté. C'est très très drôle. C'est un petit peu dissuasif aussi. Alors si la consommation de maté est commune à l'Uruguay, à l'Argentine, au Paraguay et à certaines parties du Brésil, du Chili et de la Bolivie, le mode de consommation, lui, varie d'un pays à l'autre. Les Uruguayens, comme je viens de le dire, le consomment chaud et amer. Mais surtout, ce qui caractérise la consommation de maté des Uruguayens, c'est le fait qu'on le retrouve partout ce maté, mais alors absolument partout. Depuis l'officier des douanes qui vous tamponne le passeport à la descente de l'avion, jusqu'au voyageur qui, debout, dans les cahots du bus, continue à se servir un maté d'une main alors que de l'autre il est accroché à la barre, en passant par les bancs de l'université, les balades sur la Rambla, au boulot, en famille, entre amis, le maté en Uruguay est absolument partout. D'où la nécessité du troisième accessoire. Ce troisième accessoire, c'est le thermos d'eau chaude. Et oui, ça vous permet de boire votre maté n'importe où. Ce thermos, il est tellement typique des Uruguayens que les Argentins s'en servent en général pour les caricaturer. Si dans un film argentin, vous voyez un mec avec un thermos sous le bras, c'est que le réalisateur a voulu vous dire que le personnage était uruguayen. Voilà, la consommation de maté est omniprésente en Uruguay. On la retrouve dans tous les groupes sociaux. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'un emblème national. L'Uruguay détient d'ailleurs le record de consommation de maté par tête. Mais alors, dans cette débauche, il y a une chose qui m'a surpris, qu'on remarque. Si cette consommation de maté est partout, elle échappe complètement à une logique marchande. Je m'explique. Bien sûr, on achète sa chelba maté au supermarché ou dans une boutique. Mais vous trouverez aucun lieu commercial dédié à la consommation de maté. C'est assez bizarre, notamment si on compare le maté aux autres boissons chaudes qu'on consommait à travers le monde. Si vous prenez le café, par exemple. En France et dans beaucoup d'endroits, le café, c'est pas uniquement le nom de la boisson, c'est aussi le nom du lieu commercial dédié à cette consommation. La même chose pour le thé. Il y a des espaces à travers le monde, pas uniquement en France, hein, des salons de thé, des maisons de thé, dédiés uniquement à la consommation du thé. Et pour le maté, il n'y a rien de pareil. Dans notre monde consumériste et hyper-capitaliste, c'est quand même une incongruité remarquable. Et alors, pour moi, une des raisons de cette incongruité, c'est que la consommation du maté s'apparente à un rituel très normé. Par exemple, la première fois qu'on m'a tendu un maté, j'ai commencé par remuer la paille. Je me suis fait engueuler et pas qu'un peu. C'est un peu comme si en France vous rajoutiez de la mayonnaise en tube sur votre toast de foie gras. Ou que vous rallongiez le château Pétrus de Tonton avec du coca. Voilà, ça se fait pas, hein, c'est du manque de respect. Alors la deuxième fois qu'on m'a tendu un maté, j'étais un peu sur mes gardes. Un peu tendu, je prends le maté, je le bois, je touche à rien. Et là, excès de confiance, en rendant le maté, je dis merci. C'est la faute. On m'a plus resservi de maté de la matinée. En fait, quand on dit merci, c'est qu'on n'en veut plus, donc on ne vous resservira pas. Voilà, la consommation de maté est très réglementée socialement et bourrée de règles. Quand vous arrivez quelque part où on sert le maté, il y a une ronde. C'est l'ensemble des personnes présentes qui vont prendre le maté. Le maté sera servi par une personne qu'on appelle le cebador. Cebador s'est formé sur le verbe cebar. Littéralement, en espagnol, ça veut dire gaver. Mais ça va prendre le sens de servir ou d'ajouter de l'eau dans le contexte de maté. Le cebador est donc le seul autorisé à manipuler la bombicha et tout ce qu'il y a à l'intérieur du maté. Si malgré tout, vous continuez à tripoter la paille comme moi, c'est considéré comme offensant pour le cebador. C'est un peu comme s'il avait mal fait son travail. Le service du maté est quelque chose de personnel. Il y a des techniques et des astuces qui permettent d'en contrôler ou d'en prolonger la saveur. Le cebador est un peu le maître de cérémonie. Il sert chacun à tour de rôle en contrôlant la température de l'eau et la qualité du breuvage. Voilà, le maté aussi, c'est lié à l'hospitalité. C'est ce qui fait que souvent le cebador, ça va être l'hôte quand vous êtes chez quelqu'un. Alors, quand on vous tend un maté, contentez-vous d'aspirer le liquide sans rien tripoter. Sans prendre trop de temps, auquel cas on pourrait vous dire que le maté, c'est pas un micro. Et une fois que vous avez bu l'infusion, vous allez rendre le maté au cebador sans dire merci, ce qui est particulièrement difficile pour les Français qui ont l'habitude de dire merci à tout bout de champ. Voilà, je vous donne là le rituel dans les grandes lignes, mais imaginez-vous qu'il existe une infinité de règles, de nuances symboliques, de vocabulaire associé au maté. Tout ça n'a pas été sans me rappeler à moi un autre rituel qu'on a, ou en tout cas qu'on avait en France, hein. C'est dans la consommation de cigarettes fabuleuses, si je peux dire. Là aussi, hein, il y avait plein de règles, de conventions, de dictons. Il y avait une espèce de ronde qui se formait, dans laquelle il y avait un ordre, hein, qui roule bamboule, qui fournit suie. On respecte le sens de rotation, on réclame pas, on ne s'endort pas, etc. C'est deux produits qui n'ont rien à voir, mais dont les modalités de consommation se rapprochent un petit peu, pour former un espace social de rencontre et de partage, de convivialité aussi, avec une fonction purement récréative. Le rituel du maté m'a aussi rappelé le rituel du thé au Sahara, où si quelqu'un vous propose un thé, vaut mieux avoir 3 heures de libre devant soi, parce que ça va pas être le café minute des Italiens. Alors quand on cherche un peu l'origine du rituel du maté, on se perd dans les brumes de l'histoire précoloniale très mal documentée. On sait que les Guaranis le consommaient à l'arrivée des Espagnols, et que les Espagnols, du coup, les imitèrent dès la fin du XVIe siècle, hein, pour la consommation du maté. Alors, les jésuites en apprirent, quant à eux, la culture, et ils le cultivèrent dans leur mission. Ils en firent aussi commerce. Alors, il pourrait donc s'agir, assez curieusement, d'un rituel qui, dans cette société sans mémoire précoloniale, fortement marquée par la culture européenne, aurait survécu au génocide amérindien, se serait transmis jusqu'à aujourd'hui, et serait même devenu un des rituels identitaires et quotidiens les plus forts de la société uruguayenne actuelle, transcendant les barrières de race et de classe. On est face, là, à un pur phénomène de créolisation où des personnes venues de continents et de cultures diverses vont s'approprier des pratiques jusqu'à en faire des symboles d'appartenance à une société nouvelle issue d'un brassage de populations très très large. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.
C'était la chronique uruguayenne d'Adrien qu'on retrouvera lundi prochain. Et le morceau, c'était la Lluvia cae sobre Montevideo. Montevideo, la capitale donc de l'Uruguay. Et c'était le groupe s'appelait Los Traidores. C'est un des groupes phares de la Movida. Il y a eu aussi une Movida en Uruguay, évidemment on le sait moins. Une Movida qui a suivi la chute de la dictature en 1984. Et ce groupe, Los Traidores, et donc, ce sont donc des figures un petit peu de ce moment un peu de libération culturelle en Uruguay. Influence punk et cold wave, hein, on l'a entendu. Et ça parle du sentiment d'enfermement, d'ennui sous la pluie battante de Montevideo. On remercie Maro, hein, qui à chaque fois nous sélectionne les morceaux qui viennent clôturer ces petites chroniques uruguayennes.